RFI. Grand reportage.
Déjà trois saisons des pluies qu'il ne pleut pas. Le Kenya, dans ses régions arides, fait face à une importante sécheresse, au point que le gouvernement a déclaré en septembre dernier l'état de catastrophe naturelle. Et les prévisions sont mauvaises. La saison des pluies aurait dû commencer en mars, mais rien. Une situation critique qui se répète de plus en plus souvent depuis 10 ans, qui fragilise le bétail et donc les populations qui en dépendent, notamment dans la région du Turkana au nord-ouest du Kenya. Les pastoralistes du Turkana à l'épreuve du dérèglement climatique, c'est un grand reportage d'Alban Tiroir.
Ce cri, Kylie Atabo l'utilise chaque matin pour retrouver ses amis sur la route des pâturages. Tous sont en charge des troupeaux pour la journée. À 8 ans seulement, le jeune berger connaît par cœur chaque chèvre, mouton et chameau.
Je ne vais plus à l'école désormais. Tous les jours, dès que je me lève, je pars emmener le bétail pour que les animaux puissent manger et boire.
Kylie marche ainsi dans les pas de son père et avant lui de son grand-père. Pour ces communautés pastorales du Turkana, la vie s'organise autour des animaux. Denrées précieuses, le bétail nourri, sert de dot de mariage ou de source d'argent. Un mode de vie aujourd'hui menacé par les sécheresses répétées. Resté au village à Natchouro, Abraham Erukon mâche son tabac à l'ombre, assis sur son traditionnel tabouret en bois. À plus de 70 ans, il fait partie des plus anciens du village et a vu le paysage évoluer au fil des années.
Les conditions sont beaucoup plus difficiles de nos jours. Les sécheresses n'étaient pas aussi sévères quand j'étais jeune. Tout était beaucoup plus vert. Il y avait même différentes sortes de fruits qui poussaient aux arbres. Maintenant, on ne les trouve plus, ces fruits, parce que les sécheresses sont trop fréquentes.
Dans ce village, les habitants n'ont pas vu de saison des pluies depuis début 2020. Il y a bien eu quelques précipitations en janvier, mais pas assez. C'est la troisième sécheresse en l'espace de 10 ans au Kenya. Elles sont de plus en plus rapprochées, ne laissant pas assez de temps ni à la végétation ni aux communautés pour s'en remettre. Abraham Erukon a perdu espoir.
Les terres sont si sèches ici que même si on recevait de bonnes pluies, ça ne serait pas assez pour permettre à la végétation de revenir à ce qu'elle était avant. On reçoit bien quelques précipitations de temps en temps, alors parfois ça redevient un peu plus vert, mais on est loin de ce que j'ai connu, et notamment loin de revoir des fruits. En fait, il ne pleut pas en quantité suffisante, et surtout, il s'écoule trop de temps entre chaque période de pluie. Le nombre d'animaux aussi ne fait que diminuer, et ils sont de plus en plus émaciés. Comment est-ce que l'on peut espérer les voir en bonne forme quand il n'y a pas assez d'eau ni assez à manger? Vous voyez cet enclos là-bas? Avant, il était trop petit pour contenir les bêtes d'un seul foyer. On devait même en attacher aux arbres. Maintenant, les familles y mettent leur bétail en commun. C'est vraiment triste à voir.
Les autorités kenyanes estiment à 1,5 million le nombre d'animaux perdus à cause de la sécheresse en cours. Plus de 90% des sources d'eau ouvertes des régions arides et semi-arides sont asséchées. Et les distances entre les accès à l'eau et au pâturage ont augmenté de 120 à 150%. Dans le même village, les femmes s'occupent des nouveaux-nés en discutant. Logilai Lokapelabe.
C'est simple, en ce moment il n'y a plus rien, c'est tellement sec. Les animaux n'ont rien à manger, tout le bétail est mort. Les chèvres, les vaches, les chameaux. Je me rappelle à un moment l'année dernière, ça sentait mauvais parce qu'il y avait des carcasses partout. J'ai bien essayé d'emmener mes animaux dans les hauteurs, sur les collines, en espérant que ce soit plus vert, mais même là-bas, les conditions étaient difficiles. On a aussi dû faire face à une invasion de tiques. Les animaux étaient tellement faibles qu'on devait les pousser pour qu'ils avancent. Au final, ils n'ont même pas survécu.
Cette maman de 9 enfants avait plus de 150 animaux. Il ne lui en reste aujourd'hui plus que 5. Sans son bétail, ressource précieuse, elle peine à subvenir à ses besoins.
La nourriture, c'est simple, il n'y en a pas en ce moment. Je n'ai rien. Ce n'est pas comme si je pouvais dépendre de mes animaux. En tuer un pour le manger, par exemple, alors qu'il ne m'en reste que 5, c'est pas du tout envisageable. Là, ça fait déjà plusieurs jours que je me couche le ventre vide. Donc je suis venue ici, chez mes voisines, pour voir si elles avaient quelque chose à manger. Je dépends de la générosité des autres maintenant, et je peux vraiment manger n'importe quoi.
Perte de bétail et insécurité alimentaire, les conséquences de la sécheresse se font ressentir au sein de tous les foyers du village.
Nous sommes vraiment tous touchés par la sécheresse, pas seulement le bétail, mais nous aussi en tant qu'êtres humains. Ces conditions apportent un stress très important dans nos vies. Je prie Dieu constamment pour qu'il nous apporte de l'eau. Nous en avons besoin pour survivre. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous aider. Personne ne vient à notre secours. On reste comme ça, impuissant, sans pouvoir rien faire, sans solution.
Pendant ma grossesse, ça m'a beaucoup inquiétée. J'avais peur de ne pas avoir assez à manger pour mes bébés et pour pouvoir allaiter ensuite. Mais au final, on résiste à la situation. Je pense que d'une certaine façon, notre corps a développé une forme de résilience, jusqu'à ce que la faim finisse par nous rattraper.
La vie est difficile, mais elle continue, on survit. Ce qui la rend vraiment dure, c'est cette sécheresse qui persiste et tue le bétail. Les animaux ne produisent plus beaucoup de lait, donc ça complique aussi les choses. Pour nous, mais c'est aussi problématique pour les bêtes qui viennent de mettre bas, car leurs petits ne boivent pas assez.
Les enfants du village commencent à rentrer des pâturages, la plupart n'ont pas encore mangé de la journée. Traditionnellement, ces communautés pastorales du Turkana avaient mis en place tout un système pour anticiper les périodes de sécheresse, en préservant des zones de pâturage pendant les saisons plus prospères, en faisant sécher de la viande ou encore en séparant les troupeaux, une partie envoyée paître plus loin, une autre restant aux alentours du village. Mais les manques de pluie répétés fragilisent ce fonctionnement et Kay Merié en dresse le constat.
On ne peut plus rien faire pour anticiper les périodes sèches désormais. Ce n'est plus possible de faire sécher de la viande, par exemple. On le faisait quand il y avait beaucoup plus d'animaux et qu'ils étaient gros, pas petits et émaciés comme maintenant. Là, une chèvre comme ça, ça ne serait pas suffisant pour notre foyer. Il faut du plus gros bétail. Et puis, si on décide de tuer un chameau aujourd'hui, disons que le village va immédiatement débouler pour quémander une portion. Ce ne sera pas possible d'en mettre la moitié de côté ou de la faire sécher. Tout va être mangé.
D'après l'autorité kényane de gestion de la sécheresse, près de la moitié des habitants du Turkana ont une consommation de nourriture trop faible. L'agence s'inquiétait en mars d'un manque de production de lait chez les animaux de la région. Les récoltes de maïs et de niébé sont aussi mauvaises cette saison. Alors, dans ce contexte, comment survivre ? Face à ces difficultés, les communautés du Turkana ont réussi à trouver d'autres sources de revenus. Armée d'une pelle, son bébé sur le dos, Awezit Merié ramasse du charbon. Elle l'a fabriqué elle-même avec un processus bien rodé.
Une fois que l'arbre est tombé, on démarre un feu sur le tronc, là où il s'est brisé. Puis avec les cendres, on brûle à plusieurs endroits les grosses branches qui sont tombées. Cela permet de les diviser en plus petites branches. Puis ensuite, on fait un trou dans le sol juste à côté. On y met les bûches qu'on vient de faire, puis on ajoute quelques déchets tombés des arbres comme de l'écorce, des petits branchages, puis on allume le feu et on termine en ajoutant les excréments des animaux. Ça aide à bien prendre. Là, on attend que ça brûle. Quand c'est fini, ça fait du charbon, comme ici. Il n'y a plus qu'à le récupérer à la pelle.
Les semaines les plus productives, Awezit dit pouvoir faire jusqu'à 3 sacs de charbon d'environ 80 kg chacun, qu'elle vend ensuite près de 3 euros. Une source de revenus précieuse pour cette maman de 3 enfants.
Ça me permet d'acheter de la nourriture pour ma famille. J'achète des céréales ou de la farine de maïs, puis je cuisine du porridge, de l'ougali, ou parfois un plat qui s'appelle ghiseri. C'est un mélange de maïs et de légumineuses. Quand je n'arrive pas à faire ou vendre du charbon pendant une certaine période, eh bien je ne peux pas acheter de nourriture.
Cette fabrication du combustible est devenue une source de revenus alternative pour beaucoup de familles dans le Turkana. Harold Sami est revendeur, posté derrière ses gros sacs soigneusement alignés. Il attend que les voitures s'arrêtent.
Par mois, je peux faire comme ça jusqu'à 40 euros de profit. C'est un bon business. Ça me permet de gagner quelque chose, puis d'envoyer mes enfants à l'école et d'acheter à manger pour toute la famille.
Les stands de vente de charbon, comme celui d'Harold, bordent les routes de la région, signe de la prospérité du commerce de charbon. Plus au nord du Turkana, les populations se sont emparées d'une autre ressource naturelle, l'acacia du Sénégal. Quand sa sève durcit, elle forme de la gomme arabique, un ingrédient essentiel pour plusieurs industries, notamment alimentaires ou pharmaceutiques, car elle a des propriétés émulsifiantes et stabilisantes.
Welcome. Bienvenue. Voilà, là c'est ma gomme arabique.
De l'arrière de sa boutique dans le village de Kaleng, Francis Ebé récupère un carton rempli de la précieuse gomme arabique. Elle ressemble à de petits cailloux blancs.
Là, j'ai 1 kilo. Je le vends à environ 1,40€ et je l'achète auprès de ceux qui la récoltent à 80 centimes. Donc je fais 60 centimes de profit par kilo. C'est un commerce rentable pour moi.
Francis les achète principalement à des femmes. Ce sont elles qui en récoltent le plus. La précieuse sève s'arrache directement des troncs des acacias du Sénégal. Et Kuengui Pétain a adopté cette nouvelle source de revenus. Elle scrute les arbres avec attention.
Ah, là, il y en a.
Le geste est maîtrisé, la jeune femme évite soigneusement les branches épineuses pour atteindre l'arbuste et arracher la précieuse sève.
Au départ, je m'occupais juste de mes animaux, je les emmenais paître la journée. Puis on a eu il y a quelques années une longue sécheresse où j'ai perdu presque tout mon bétail. C'est là que, petit à petit, j'ai commencé à récolter la sève des arbres pendant que je marchais avec le bétail. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être une bonne alternative économique pour moi. Car dépendre seulement des animaux pour vivre, c'est trop précaire. Lorsqu'ils meurent, il ne nous reste plus rien, comme en ce moment. Alors que la gomme arabique, ça me permet de gagner ma vie et d'acheter à manger pour mes enfants tous les jours. Même ceux où je n'en collecte qu'un peu.
Abdi Fattar a grandi dans ce village. Il travaille aujourd'hui pour une société exportatrice de gomme arabique, Acacia EPZ, et collecte pour elle les petits cailloux blancs auprès des habitants. Il a vu l'intérêt pour cette sève croître ces dernières années.
À la base, c'était juste les enfants qui la mangeaient. Au tout début du business, il y avait beaucoup moins de monde à la récolter. Puis, les gens ont petit à petit commencé à se rendre compte que cette activité était génératrice de revenus, donc on a eu de plus en plus d'intéressés. À chaque fois que je viens récupérer la gomme, je me rends compte qu'il y a un plus grand nombre de personnes à la récolter. Ça a créé des opportunités d'emploi et amélioré le niveau de vie de plusieurs familles.
En plus du charbon ou de la collecte de gomme arabique, d'autres se rabattent aussi sur la confection de balais ou sur la pêche sur le lac Turkana. Car à cause des conditions climatiques difficiles, de plus en plus de communautés pastorales ont commencé à adopter des moyens alternatifs de subsistance, cherchant à réduire leur dépendance au bétail. Des activités qui leur permettent de vivoter, mais malgré elles, l'aide humanitaire reste essentielle pour certains. C'est d'ailleurs bien visible à Lodwar, la capitale du comté. Il est fréquent de voir dans la ville les queues se former devant la banque principale. Venus de plusieurs villages de la région, les populations espèrent récupérer un peu de liquidité. Face aux sécheresses répétées, les autorités kényanes ont mis en place un programme national de transfert d'argent et de nourriture dans les comtés les plus affectés, comme le Turkana. Napeyok Napetet sort tout juste de l'agence bancaire. Elle est venue en autostop spécifiquement pour récupérer cette aide. Elle a déjà reçu 2 transferts équivalents à 45€ l'année dernière. Mais les versements sont irréguliers. Ce jour-là, elle repart bredouille.
Il n'y a rien sur la carte. Je comptais pourtant dessus, car je dois payer les frais scolaires de mes enfants. Et encore, ce n'est qu'un problème parmi d'autres. Il y en a tellement. La faim, les maladies, le manque d'eau. Ça se voit d'ailleurs. Aussi bien les gens que les animaux sont complètement amaigris, car on n'a rien à manger. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de pâturage.
D'autres viennent pour la première fois dans la queue, tous citent des difficultés pour se nourrir et affirment mettre leurs espoirs dans cette aide financière. Dans le Turkana, le gouvernement kényan estime à plus d'un tiers la population qui aurait besoin d'une assistance humanitaire. Cette situation difficile, Ruth Kombé en est témoin au quotidien, elle qui travaille dans un dispensaire de la capitale.
On voit vraiment l'impact de la sécheresse. Les plus mal nourris, ce sont les enfants. Surtout ceux qui viennent des communautés pastorales. Ici, dans la ville, les gens arrivent à se débrouiller pour avoir quelque chose à manger. Mais dans les régions plus rurales, ils sont dépendants du bétail. Ça nous arrive régulièrement, par exemple, de voir des mamans arriver avec 4 enfants et nous dire qu'ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. On voit très clairement qu'il y a un besoin alimentaire urgent. Un autre problème auquel on est confronté, c'est d'arriver à toucher tout le monde. On a introduit des activités où l'on se déplace dans les zones les plus rurales pour apporter des services médicaux aux communautés pastorales. Mais nous nous sommes rendus compte que parfois, si l'on y va à une période où il n'y a pas de pluie, les habitants sont partis. Ces gens sont nomades. Quand il y a une sécheresse, ils se déplacent pour aller dans des endroits où ils peuvent trouver de la nourriture, aussi bien pour leur bétail que pour eux-mêmes. Mais en conséquence, ça implique du retard dans le suivi médical. C'est un grand problème pour nous.
Au-delà de l'accès aux soins médicaux, ces déplacements, que ce soit vers les régions ou pays voisins, entraînent aussi une hausse des conflits entre les différentes communautés. Samuel Ekal est directeur de projet au sein de Tupado, une association qui met en place des projets de développement pour les éleveurs. Ces conflits, justement, il les connaît bien.
Quand le comté du Turkana est touché par une catastrophe naturelle, comme la sécheresse, la famine ou encore les criquets pèlerins, les communautés pastorales trouvent refuge de l'autre côté de la frontière. Mais puisque les ressources y sont aussi rares, les communautés sur place, en Ouganda par exemple, ont le sentiment que les Kenyans vont épuiser leurs ressources. Donc d'un côté, on a une population qui essaye de protéger son territoire, et de l'autre, des bergers qui ne peuvent pas se permettre d'attendre que la situation s'améliore. Ils sont sous tension pour que leurs animaux boivent et aient accès à des pâturages. Le bétail ne fait pas de différence entre le Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie ou encore le Soudan du Sud. Et si les négociations entre les différentes communautés échouent, elles en viennent à l'usage de la force.
Ces conflits, David Lomaria Kipi aussi y est habitué. Originaire d'un village qui borde le comté voisin, celui de West Pokot, il est venu au marché de l'Odoir dans l'espoir de tirer profit de ces derniers animaux.
Mes parents sont décédés, alors depuis je suis en charge du bétail. Mais les Pokots sont venus et ont volé la majorité de mon bétail. De là où je viens, ces descentes sont fréquentes. Tous les 2-3 jours, il y en a. Parfois, des gens sont même tués pendant les attaques. Les animaux qui me restent maintenant sont les plus petits. Mais j'ai pris ceux qui me paraissaient les plus en forme et je vais essayer de les vendre pour avoir quelque chose à acheter, à manger à ma famille. Le problème, c'est que les prix sont bas en ce moment car le bétail est rachitique.
En février déjà, le gouverneur du Turkana, Josphat Nanok, s'inquiétait du vol de plus de 5000 animaux et d'un bilan de 18 personnes tuées lors de conflits autour du bétail en l'espace de 2 mois. Une violence aggravée par la prolifération des armes dans la région, selon Samuel Ekal.
L'insécurité a certes augmenté à cause du changement climatique, mais aussi parce que certains ont commencé à se lancer dans le commerce de bétail. Et ils sponsorisent des voleurs de bétail. Ça se criminalise. Avant, il y avait déjà des vols, de manière traditionnelle si on peut dire, qui avaient pour but de rééquilibrer les stocks d'animaux. Si un berger avait perdu tout son troupeau à cause de la sécheresse, de maladie ou de toute autre catastrophe, et qu'il n'avait aucun moyen de racheter son stock, alors il était entendu qu'il pouvait aller en voler chez son voisin. Mais ce qui a changé et augmenté ce phénomène, c'est la présence d'armes. Dans toute la région, que ce soit au sud-ouest de l'Éthiopie, au Soudan du Sud, au nord de l'Ouganda ou au nord du Kenya, toutes ces communautés sont armées aujourd'hui.
C'est justement cette insécurité qui pousse les communautés de la région à s'armer.
Au Kenya, elles ont l'impression de ne pas être protégées par les autorités. Ces gens sont dans les zones rurales, dans les montagnes. Il n'y a pas de police dans ces zones. Donc, si je viens et que je vole tes animaux, qu'est-ce que tu vas faire? Aller le déclarer à la police? Pendant ce temps, le bétail aura déjà franchi la frontière et ce sera trop tard. D'autant que les armes, elles sont partout. Ce n'est pas difficile d'en obtenir.
Dans ce contexte, alors que les sécheresses sont de plus en plus rapprochées, que les communautés voient leur bétail diminuer et que la nourriture continue de manquer, l'avenir du mode de vie pastoral inquiète Samuel Ekal.
Le pastoralisme devient presque un défi aujourd'hui. Pourquoi ? À cause du changement climatique. Et les communautés aussi sont responsables. Parce que quand les bergers se déplacent à chaque nouvel endroit, ils abattent les arbres pour faire du charbon ou pour construire des abris de nuit pour les animaux. Mais le résultat final, c'est que l'on voit une urbanisation de plus en plus rapide. Un nombre croissant de familles abandonnent ce style de vie pour venir s'installer près de la ville. Et donc, les villes grossissent. Tout ça à cause du changement climatique.
Alors qu'une nouvelle saison des pluies doit commencer, les enjeux sont grands pour ces communautés pastorales. Même si les précipitations finissent par arriver, elles risquent de ne pas suffire pour amortir les conséquences de la sécheresse en cours et leur permettre d'anticiper la prochaine.
Les pastoralistes du Turkana à l'épreuve du dérèglement climatique. Un grand reportage d'Alban Tiroir, réalisation Pauline Leduc.